Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet que j'aurais souhaité vouloir toucher auparavant, mais je n'ai pas eu le temps, puisque le 29 juin dernier, c'était la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, la fête des ordinations sacerdotales. La plupart du temps, la plupart des prêtres sont ordonnés le 29 juin. J'aurais voulu vous parler du sacerdoce. Dans le mot sacerdoce lui-même, il y a déjà beaucoup de choses. Sacerdoce vient du latin sacra, dans, celui qui donne les choses sacrées. Donc le prêtre, c'est en quelque sorte le lien entre Dieu et les hommes. C'est celui qui monte vers le bon Dieu avec sa prière officielle et qui redescend du bon Dieu vers les hommes pour ramener vers les hommes les grâces qu'il a obtenues au ciel. Le prêtre, c'est celui en quelque sorte qui tient les clés des grâces du bon Dieu. Le bon Dieu pourrait bien sûr donner directement ses grâces, il pourrait le faire. Mais il a voulu ordinairement passer par la main du prêtre. Il y a beaucoup de choses que le bon Dieu pourrait faire directement, mais il passe par la main du prêtre, peut-être sans doute pour obliger les hommes à s'humilier. L'homme s'est coupé de Dieu par l'orgueil. Et donc c'est par l'humilité que l'homme se rapproche du bon Dieu. Donc le prêtre est celui qui en quelque sorte tient dans sa main les clés du grand coffre que notre Seigneur Jésus-Christ a mis au pied de la croix, au pied du vendredi, de la croix du vendredi saint, dans lequel sont placées toutes les grâces que les hommes vont utiliser pendant toute l'histoire du monde. Et pour cet accès à ce coffre, il faut deux choses. Il faut d'abord la clé, mais il faut aussi la Sainte Messe, puisque c'est par la Sainte Messe qu'on renouvelle d'une façon non sanglante le sacrifice de la croix. Je voudrais aujourd'hui surtout toucher un point bien précis qui est la source de beaucoup de confusion pour que nos fidèles comprennent bien le rôle du prêtre. Quel est le rôle premier du prêtre? Souvent, lorsqu'on pose cette question aux fidèles, quel est le rôle premier du prêtre? Les fidèles vont nous répondre en général de célébrer la messe, de confesser, donner les sacrements. Ceci est un rôle bien sûr très important du prêtre, mais ce n'est pas le rôle premier. Le rôle premier du prêtre, c'est d'être l'homme de la prière officielle de l'Église. J'en veux pour preuve qu'un prêtre en soi n'est pas tenu de célébrer la messe tous les jours, sauf les curés pour les dimanches et fêtes d'obligation. Il y a même des prêtres, des saints prêtres qui ont été ordonnés prêtres et qui ont attendu parfois pendant de longs mois avant de célébrer la première messe parce qu'ils se sentaient impuissants, ils se sentaient plus exactement indignes de célébrer la messe. Bon, certes, c'est préférable, c'est à imiter, mais c'est à admirer, mais sans doute pas à imiter parce qu'il est préférable que la Sainte Messe soit offerte tous les jours par le prêtre. Cependant, ce n'est pas une obligation. Donc l'obligation du prêtre, la prière officielle du prêtre, celle pour laquelle il est d'abord prêtre, c'est le bréviaire, le Saint-Office. L'office du bréviaire qui réunit en quelque sorte en lui-même toute l'essence même de l'Église. C'est à la fois une partie du l'Ancien Testament, une partie du Nouveau Testament, l'explication de la fête du Saint de chaque jour, de une hagiographie du Saint, c'est en même temps une explication à partir des pères de l'Église, de l'Évangile du jour, c'est tout ça à la fois. Et le prêtre est obligé de célébrer, de réciter son bréviaire, qui est la prière officielle de l'Église, tous les jours, et non seulement il est obligé de dire cette prière tous les jours, mais il est obligé sous peine de péché grave. En plus de ça, non seulement il est obligé en général de dire son bréviaire tous les jours, c'est peine de péché grave, mais chaque petite heure, c'est-à-dire chaque petite partie du bréviaire, comme par exemple la partie de tierce, de sexe ou de nonne, qui prend à peu près 7 minutes pour être dite, eh bien chaque partie est déjà d'obligation sous peine de péché grave pour le prêtre. Le prêtre est d'abord l'homme de la prière. Pourquoi? Il est en quelque sorte, on peut comparer le prêtre à un paratonnerre. Paratonnerre, c'est quoi? C'est une tige de fer qui se met au sommet du toit et quand il y a un orage, bien la foudre va tomber sur le fil de paratonnerre et donc après l'énergie électrique va passer dans la terre sans brûler la maison. De la même façon, le prêtre est le paratonnerre de l'Église, c'est-à-dire c'est celui qui doit justement attirer les grâces du bon Dieu en tout premier pour pouvoir après les diffuser sur les autres, mais pour être celui qui transmet. C'est la raison pour laquelle le prêtre a toujours été la cible d'attaques vigoureuses du démon. Dès que le démon veut essayer de détruire l'influence de l'Église quelque part, la première chose qu'elle fait, c'est essayer de détruire l'influence des religieux et l'influence des prêtres. On le voit dans toutes les révolutions. Donc le premier devoir du prêtre, c'est ça. C'est sa vie de prière d'abord pour le bréviaire. Donc matine, laude, prime, tierce, sexe, non, vêpres et complice tous les jours. Avec ce bréviaire, le prêtre est aussi obligé par sa méditation. Il doit devenir un homme de raison. Monseigneur Lefebvre a l'habitude de nous dire avec raison, un prêtre qui ne fait pas oraison, un prêtre qui ne garde pas sa vie d'oraison, sa vie de méditation, nous disait-il, est un monstre dans l'ordre de la grâce. Et je pense que c'est très vrai. Donc, il faut que vous priez pour vos prêtres, mes bien chers frères. Vos prêtres ne sont pas des anges. Vos prêtres sont des hommes qui touchent des choses sacrées. Donc, si vous voyez, ce sont des vases d'argile fragiles qui contiennent en eux-mêmes une chose des plus sacrées, à savoir le pouvoir de faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc il faut prier pour vos prêtres, afin que vos prêtres gardent la vertu d'humilité, afin de garder la vertu de fidélité. C'est le premier rôle du prêtre, donc la prière. Le deuxième rôle du prêtre, c'est le rôle de sacrifice. Le prêtre est celui qui offre le saint sacrifice de la messe, donc le prêtre doit être un homme de sacrifice. Et le premier sacrifice que l'Église catholique demande au prêtre, c'est un honneur mais en même temps un sacrifice, c'est le port de la soutane. Le port de la soutane représente justement de façon éminente l'esprit de sacrifice qui doit être celui du prêtre. Pourquoi doit-on faire pénitence? Nous devons faire pénitence à cause du péché originel. Il y a deux voies pour aller au ciel. Soit la voie de pénitence, soit la voie d'innocence. Ceux qui n'ont jamais été péchés peuvent aller au ciel par la voie d'innocence après leur baptême. Ceux qui ont commis des péchés, malheureusement pour eux, la voie d'innocence est fermée et ils doivent utiliser à ce moment la voie de pénitence. Dans la pratique, les seules personnes qui peuvent utiliser la voie d'innocence sont les bébés qui meurent juste après le baptême. Comme pour chacun d'entre nous qui sommes des pécheurs, malheureusement, la voie d'innocence est fermée, il nous faut utiliser la voie de pénitence. Et l'Église demande surtout de faire pénitence, notamment sur les trois portes d'entrée qu'utilise en général le démon pour entrer dans une âme. Pour entrer dans une âme, le démon utilise toujours une de ces trois portes, soit la concupiscence des yeux, soit la concupiscence de la chair, soit l'orgueil. Parfois il utilise une porte, parfois il en utilise deux, parfois il utilise même pour certaines personnes les trois portes à la fois. Donc le prêtre, qui est le représentant de l'Église, doit faire pénitence, justement, puisqu'il porte, c'est celui qui porte la croix, qui amène les grâces aux fidèles. Le prêtre doit donc, dans sa façon de vivre, faire pénitence dans ces trois notions. Et contre la concupiscence des yeux, et contre la concupiscence de la chair, et contre l'orgueil, d'où la soutane. La soutane est l'habit du religieux, l'habit du prêtre, l'habit de celui qui donne le sacré. Et par les trois parties de la soutane, on retrouve ces trois pénitences. Le prêtre porte d'abord le col romain, qui est un cercle, si vous voulez, qui va enserrer son cou et qui représente la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance de l'esclave. Auparavant, dans les siècles où malheureusement l'esclavage existait, eh bien l'esclave était tenu rivé à la nuit à un mur par une chaîne qui était attachée à un anneau qu'il portait toujours autour de son cou. Et donc le col romain est le symbole de la vertu d'obéissance, donc la lutte contre l'orgueil. Ensuite, la soutane elle-même, par son drapé noir, par sa simplicité, va représenter la lutte contre la concupiscence des yeux. C'est-à-dire le désir de tout avoir, le désir de tout posséder, le désir des richesses du monde. Et enfin, la ceinture que porte le prêtre sur la soutane représente la lutte contre la concupiscence de la chair. C'est le symbole de la vertu de chasteté. Et qu'on retrouve donc par le port de la soutane les trois éléments de pauvreté, chasteté et obéissance. Et c'est pas pour rien qu'autour des années 60, eh bien les évêques modernistes ont tout de suite poussé leurs prêtres à ne plus porter la soutane. Parce que la soutane est un drapeau. Parce que la soutane représente justement une consécration à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent plus de ça. Pourquoi ? Pourquoi ne veulent-ils plus de ça ? Parce qu'ils sont convaincus que le péché originel n'existe pas. Puisque le péché originel n'existe pas, il n'y a plus de péché. Puisqu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de concupiscence. Puisqu'il n'y a plus de concupiscence, pourquoi faire pénitence ? En plus de ça, puisque l'homme est devenu Dieu, Dieu n'a pas besoin de faire pénitence puisqu'il est Dieu. Et donc la pénitence disparaît. Et on voit très bien ça dans l'esprit protestant. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé dans les pays de langue anglaise, surtout aux États-Unis, qui sont des pays très, très marqués par le protestantisme. Justement, la soutane avait été la cible d'attaques dans l'Église, parmi les hommes d'Église, bien le début. Aux États-Unis, en France, les prêtres ont enlevé leur soutane autour des années 60. Aux États-Unis, dès les années 1920-1930, la soutane était éliminée et remplacée par le clergyman. Mais d'ailleurs, c'était les trois symboles qui sautaient. Clergyman n'a plus de col romain. Une toute petite pièce de plastique qui est longue, qui fait 3 cm de long sur le devant, donc il n'en sert plus le cou. La pénitence qui était symbolisée justement par le cou encerclé par le col romain disparaissait complètement. Le clergyman est un habit qui est un habit mondain en soi, c'est un costume. Et enfin, la forme simple de la soutane disparaissait aussi complètement. Et donc l'esprit de pénitence disparaissait. Alors on va vous dire, mais le prêtre peut faire pénitence d'une autre façon. Bien sûr qu'il peut faire pénitence d'une autre façon, il doit faire pénitence d'autre façon. Mais qui commence d'abord par être ce que l'Église lui demande d'être. Puisque le prêtre est comme celui qui porte le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ, le porte-drapeau dans une armée, et ce porte-drapeau est à la tête de l'armée. Et il porte un uniforme distinctif, un drapeau justement distinctif pour qu'il soit bien reconnu. Et les gens vont suivre ce drapeau, et lorsque le porte-drapeau est tué, ou lorsque le drapeau est pris par l'ennemi, c'est la fin de la bataille, la guerre est terminée. Donc le prêtre est le porte-drapeau qui lutte contre l'armée du monde, contre l'armée de l'orgueil, contre l'armée de la désobéissance, contre l'armée de l'esprit capitaliste d'aujourd'hui, et contre l'armée de l'esprit de chair, de l'esprit d'impureté. Et qu'on retrouve là le deuxième rôle du prêtre, prière, pénitence. Et une fois que le prêtre a rempli ces deux fonctions, qui sont ces deux fonctions essentielles, d'abord la prière, puis la pénitence. Une fois qu'il a rempli ces deux fonctions, qui sont encore une fois ces fonctions essentielles, à ce moment-là, il s'est rempli du bon Dieu par l'intermédiaire de la prière, il s'est rempli du bon Dieu par l'intermédiaire de l'esprit de pénitence, et à ce moment-là, le bon Dieu va demander au prêtre, à ce moment-là seulement, de remplir sa troisième fonction. Et la troisième fonction du prêtre, c'est la fonction de prédication. Prédication. Mais la fonction de prédication ne peut venir qu'après que les deux premières fonctions ont été remplies. Malheur aux prêtres qui prêchent sans faire pénitence et aux prêtres qui prêchent sans avoir prié auparavant. Ça que avant les traditions de l'Église exigeaient par exemple que le prêtre ait fait sa méditation avant même de prêcher le dimanche. Et que le prêtre, justement, ait rempli ses premières obligations de pénitence et de prière avant de donner la parole du bon Dieu à ses fidèles. Si un prêtre prêche sans avoir prié auparavant, sans avoir fait pénitence auparavant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va prêcher lui-même. Il va prêcher l'homme. Si au contraire un prêtre se remplit du bon Dieu par la prière et la pénitence, il va prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Mais d'où l'importance pour le prêtre de ne jamais prêcher justement sans avoir d'abord rempli ses deux premières fonctions essentielles, de la prière et de la pénitence. Et on voit très bien dans le monde moderne. Pourquoi croyez-vous que les prêtres modernes, ou les soi-disant prêtres modernes, sont incapables de donner un sermon qui tienne un peu la route ? Pourquoi leurs sermons sont complètement creux ? Quelle est la raison principale? La raison principale, c'est qu'ils ne sont plus des hommes de prière et plus des hommes de pénitence. Ils disent plus leur bréviaire, ne portent plus la soutane. Comment voulez-vous qu'ils prêchent? Et une des premiers signes par lesquels on peut reconnaître qu'une société religieuse est en train de s'écrouler, est en train de s'effriter, c'est justement par ce signe-là. J'ai encore beaucoup de contacts avec la fraternité sacerdotale de Saint-Pilice, avec des prêtres de la fraternité sacerdotale de Saint-Pilice de par le monde. Je vous parle des gens qui vont encore à la messe de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice de par le monde. Et on le voit, ils me disent, on le voit très bien actuellement. Monseigneur Felet veut absolument que la société Saint-Pilice soit reconnue par l'Église de Vatican II. Et donc, ils me disent tous, mais la prédication des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice devient de plus en plus faible. Ils ne sont plus capables de prêcher parce que justement, ils sont tenus maintenant par leurs engagements dans l'Église de Vatican II, laquelle n'est pas l'Église catholique. Et il faut bien respecter ce plan, en quelque sorte, qui est donné par le bon Dieu. La prière, la pénitence, la prédication. Ensuite, une fois que la prédication est faite, la prédication représente, la préparation qui doit être faite aux âmes avant qu'elles ne reçoivent les sacrements. Le prêtre n'est pas le distributeur automatique des sacrements. Le prêtre doit donner les sacrements aux âmes qui sont préparées à les recevoir. Et donc, il y a un devoir grave pour le prêtre, avant de donner les sacrements, de préparer ses âmes à les recevoir. Et comment le prêtre va-t-il préparer les âmes à recevoir les sacrements, surtout le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie, précisément par la prière, la pénitence et la prédication. Vous voyez bien, cette échelle, donc prière, pénitence, prédication, et ensuite, une fois que la prédication est faite, à ce moment-là, une fois que les âmes sont préparées à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, le prêtre peut donner les sacrements. Sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie. Là est toute l'âme du prêtre. S'il y a encore un peu de temps, le prêtre va pouvoir aussi se lancer dans les œuvres. Ça passe après. Je dirais que c'est du domaine complètement secondaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est une façon d'expliquer la différence essentielle qui existe entre l'Église catholique à laquelle nous appartenons et l'Église de Vatican II, c'est que l'Église de Vatican II a tout simplement inversé l'ordre. Pour l'Église catholique, le prêtre est d'abord l'homme de prière, puis l'homme de la pénitence, puis l'homme de la prédication, puis l'homme qui donne les sacrements, et tout à fait à la fin, s'il reste un peu de temps, le prêtre est l'homme des œuvres. Dans l'Église de Vatican II, l'ordre a été complètement interverti, a été retourné. Dans l'Église de Vatican II, le prêtre est d'abord l'homme des œuvres, puis l'homme des sacrements, puis l'homme de la prédication, puis s'il reste encore un petit peu de temps, l'homme de la prière et de la pénitence. Et donc dans la pratique, on a très peu de temps, on laisse tomber les choses peu importantes. Donc un prêtre catholique qui n'a pas beaucoup de temps pour tout faire va laisser tomber une partie des œuvres. Dans l'Église de Vatican II, au contraire, le prêtre qui n'a pas le temps de tout faire va laisser tomber la prière et la pénitence. Donc il laisse tomber la raison d'être de sa fonction sacerdotale. C'est pour ça que les prêtres modernes, moi j'ai entendu cette remarque plusieurs fois, les prêtres modernes nous disent on ne sait plus pourquoi, à quoi on sert. On ne sait plus pourquoi on est prêtre. Parce qu'évidemment, dans l'Église modèle, plus besoin de prêtre, pourquoi? Parce que l'homme est devenu Dieu. L'homme s'est fait Dieu. Ah, mes bien chers frères, prions. Priez pour vos prêtres. Priez aussi pour que le bon Dieu envoie des ouvriers à sa moisson, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont bien peu nombreux. Priez, mes bien chers frères, pour que le bon Dieu, entre autres, envoie ici, dans cette maison, un autre prêtre pour venir m'aider, parce qu'on est très difficile d'augmenter l'œuvre des retraites sans avoir un deuxième prêtre pour m'aider. Avec la grâce du bon Dieu, nous avons eu déjà pratiquement une centaine de personnes qui sont venues faire la retraite cette année, ou qui sont inscrites pour les retraites, mais c'est évident que si nous avions un deuxième prêtre pour nous aider, cette œuvre pourrait être beaucoup plus forte. C'est pour ça que je vous recommande beaucoup pour vous renforcer dans votre foi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, de venir au moins une fois tous les deux ans, voire même une fois par an, c'est encore meilleur, de venir suivre une retraite, pour que justement vous compreniez ces choses essentielles, à savoir que L'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu parce qu'il est dans un état de créature. Alors demandons, mes bien chers frères, surtout à la très sainte Vierge Marie, qui a parfaitement compris toutes ces choses. Demandons à la très sainte Vierge Marie de devenir le paratonnerre de notre propre maison, de notre propre âme. La très sainte Vierge Marie, elle a parfaitement compris qu'elle était l'intermédiaire. Elle n'était pas Dieu, elle était l'intermédiaire pour donner Dieu aux âmes. C'est le rôle de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie est donc celle, justement, qui doit, à cause du fait qu'elle est cette intermédiaire, elle est co-rédemptrice du genre humain, elle est médiatrice de toutes les grâces, et donc celle qui devait avoir par essence même une vie de pénitence et une vie de prière. Et la très sainte Vierge Marie a été une prière vivante, littéralement, par sa fonction et par son rôle dans l'Église. Donc demandons-lui, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses pour que nous restions bien en état de grâce, bien fidèles à notre devoir d'état de porter notre croix de chaque jour pour nous trouver un jour tous au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.